Orchestre National de France,
la maîtrise de Radio France,
réunis au Cirque d'Hiver le 18 décembre à 20h
pour un grand concert de Noël. De Vienne à Broadway, les airs les plus célèbres de Bernstein, Gershwin, Léa.
Une merveilleuse soirée pour les fêtes.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Culture présente France Culture Plus, le web campus. Sur franceculturplus.fr, découvrez le nouveau webmédia étudiant France Culture Plus. Au menu, des cours et conférences postés par les universités et les grandes écoles, une sélection d'émissions de France Culture et des Radio Campus, des programmes originaux sur le monde étudiant. France Culture Plus, à découvrir sur franceculturplus.fr. France Culture, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
15h04, là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Un personnage haut placé de l'UMP, une personnalité vient de quitter l'UMP. Moi, je suis dégoûté parce que si tout le monde se barre, je ne sais pas où ça va aller. Et cette personnalité, c'est Michael Vendetta. Il vient de quitter l'UMP en disant « C'est un parti de fous, ils sont fous, ils m'ont dégoûté. » Il y a peut-être de l'espoir quand même, il s'est rendu compte de quelque chose. Il n'est pas si con que ça, ce garçon. Mais quand même, Michael Vendetta, qui l'eût cru ? Comment on va faire Copé ? Comment on va faire Fillon ? Comment on va faire Nicolas Sarkozy ?
Après 400 mètres, tournez à gauche.
Eh oui, tournez à gauche, ce serait bien. Hein, tourner à gauche, c'est mieux qu'à droite.
Ouais, depuis plusieurs mois, là, dans le Sud-Est, on se bagarre, notamment avec le comité d'initiative citoyenne, pour qu'il y ait un maintien des terres agricoles et fertiles dans nos quartiers où ça construit à tour de bras. Alors, automatiquement, le projet Notre-Dame-des-Landes en sont concernés, parce que 2000 hectares de terres agricoles et fertiles, c'est à peu près l'équivalent en surface de 4000 terrains de football, pour ceux qui ne s'imaginent pas, peuvent pas ce que c'est qu'un hectare. Ce soir, le comité de soutien varois aux opposants du projet Notre-Dame-des-Landes se réunit à 19h dans les locaux de la Confédération Paysanne au Canet des Morts. On y sera, on discutera avec eux, ce qui nous permettra d'en parler vendredi, parce que vendredi, il y a le repère à Tourette. Bon, on se retrouve vendredi 19h, latitude à Tourette, pour le repère Notre-Dame-des-Landes. Ciao vivre, portez-vous bien.
Oui, bonjour, j'appelle de Rennes, où ce matin a passé 250 migrants ont été expulsés d'un squat, dont 80 enfants. Cet après-midi, la préfecture les a envoyés d'un bout à l'autre du département pour une, deux, trois ou quatre nuits d'hôtel, sachant que du coup, dans quatre jours, ils seront à la rue, mais comme ils seront tous éparpillés, il n'y aura pas de mobilisation possible, donc bien joué le gouvernement. Et du coup, nous, même si ce n'est pas une solution durable, on est quand même contents parce qu'on a une petite victoire aujourd'hui. On a ouvert un squat pour une dizaine de personnes qui ne dormiront pas à la rue. Donc voilà, on est content au moins pour le moment pour cette dizaine de personnes-là, même si on continue de lutter face au racisme d'État.
Je voudrais dire que voilà, Jean-François, c'est un mec bien, Jean-François. Jean-François, c'est un type qui nous a fait croire, rappelez-vous, que si on ne faisait pas gaffe, bientôt dans Paris et dans toutes les grandes villes, on aurait des burqas partout. Partout, comme à Kaboul. Paris, ce sera comme à Kaboul. On ne reconnaîtra plus du tout nos femmes parce qu'elles seront toutes en burqa. Ça, c'est Jean-François qui a fait une jolie loi pour ça. Jean-François, c'est un type qui nous a aussi proposé d'aller discuter dans les préfectures sur l'identité nationale. Il voulait faire un débat dans les préfectures. En général, l'identité nationale, elle se forge au boulot, dans les clubs de gym, dans les associations. C'est là qu'on fabrique une identité nationale. C'est au quotidien, c'est pas dans un salon préfectoral autour d'un petit four. Voilà, ça c'est Jean-François. Alors voilà, moi j'ai simplement pour dire à Daniel et à tous les auditeurs, en 2017, faites gaffe à Jean-François. Faites très 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 attention.
Super bien avec Notre-Dame-des-Landes, même si on est complètement gastronatique, complètement bourré.
Oui, avec Notre-Dame-des-Landes, la Catalogne, on est bourré, et on s'en bat les couilles, on a plus le tout.
Allez, merci Daniel. Bonjour à tous les AMG. Ciao Daniel.
Bonjour les joyeux de riz, bonjour les rigolos, bonjour les auditeurs, bonjour les AMG, merci pour vos messages. Vous savez ce qu'il y a en commun entre GoSport, le groupe Casino, Auchan, Cora, Ikea, Walmart? Quoi de commun? Eh bien que les vêtements qui sont vendus par ces grandes marques sont pour la plupart fabriqués soit en Chine, soit au Bangladesh. Qu'est-ce qui fait que nous le savons si bien ? Eh bien, c'est qu'on a retrouvé sur un carnet de commandes d'une entreprise au Bangladesh les noms de ses clients. Cette entreprise qui fabrique des textiles, qui fabrique des vêtements, a flambé. L'une des usines a flambé samedi 24 novembre à Dhaka. 112 victimes, 112 femmes sont mortes dans cet incendie. En 5 ans, 500 femmes ouvrières, parce que c'est la majorité des ouvrières, sont mortes dans des incendies au Bangladesh. Les conditions de travail sont régulièrement dénoncées à travers des reportages, à travers des témoignages, à travers des enquêtes d'organisations non gouvernementales. Tout ça est parfaitement su, parfaitement connu aujourd'hui. Alors par rapport à ça, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de l'éthique sur l'étiquette, qui voudrait arranger les choses, qui voudrait que ça se voit pas trop, qui voudrait que ça s'arrange, que ce soit gentil, etc. Et puis il y a une critique plus rare, mais quand même plus radicale, qui pense qu'il y a là un phénomène dû à un système et où les acteurs de ce qui aboutissent, qui permettent que de tels résultats, qui sont responsables de tels résultats, ne sont jamais qu'une succession de rouages à l'intérieur d'un seul et même système. C'est deux options et deux façons de voir les choses. Il y en a une autre qui consiste à être sur le terrain et à voir comment ça se passe. C'est ce que nous avions fait avec Give en 2006. Nous étions au Bangladesh, nous étions exactement à Chittagong et nous avons fait un sujet, un reportage sur les conditions de travail des ouvrières dans les ateliers de confection. Et il s'est passé ce que vous allez entendre à nouveau dans l'émission d'aujourd'hui. L'indignation, la sympathie, l'empathie, tout ça évidemment sont des sentiments très dignes et très nobles. Mais vraiment, ça ne suffit pas. Je dis tout ça au moment où la classe politique française donne le spectacle que vous savez, qui fait rigoler, mais qui doit être mis en rapport avec la responsabilité des élus dans une démocratie et ce qui se passe dans un pays comme celui-là. Souvenez-vous de ce que nous disait Tariq Ali dans les conversations que nous avons eues hier et avant-hier avec lui. Lorsque, à des étudiants américains qui lui disent « Mais il n'y a plus de classe ouvrière aux États-Unis », Tariq Ali, il répond « Mais si, il y a toujours une classe ouvrière américaine, mais elle est en Chine. » Eh bien, considérons jusqu'à 16 heures que la classe ouvrière française est au Bangladesh. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, Vladimir, la CGT chômeur de Lorient. C'était pour signaler à tous les copains de là-bas, si j'y suis, que le 1er décembre, à Paris, à 14h, il y a une manifestation des chômeurs et précaires qui démarre à 14h, place de Stalingrad. Donc, avec la logique de c'est mieux que rien, on accepte toujours des contrats de plus en plus dégradés. On a des conditions de vie toujours plus dégradées, aussi bien accès au logement, la santé, l'éducation, le loisir, les vacances et tout ça. Donc, il est peut-être temps de se secouer. Donc, ceux qui veulent bouger, 1er décembre, 14h, Paris, place de Stalingrad.
Bonjour Daniel, j'appelle suite à l'intervention du médecin généraliste concernant le dépistage excessif du cancer de la prostate. J'ai trouvé l'intervention extrêmement généreuse. J'ai 51 ans. Il y a 3 ans, on m'a dépisté un cancer de la prostate, tout à fait par hasard. J'en remercie mon médecin traitant aujourd'hui qui a fait son travail. Néanmoins, je vais quand même acheter le livre pour en savoir plus. J'aimerais que les chirurgiens urologues nous préviennent bien des conséquences, notamment des conséquences sexuelles. Et plutôt que de nous donner des pilules miracles qui servent à rien, organiser des groupes de parole qui nous permettraient d'encaisser le choc. Merci Daniel, j'adore ces émissions.
Bonjour les AMG de Lyon. N'oubliez pas, ce soir, Suzanne Georges vient présenter son dernier livre et maintenant, en finir avec la démocratie. à l'initiative de C3V Maison Citoyenne. Le lieu, salle de Bussy, à 20h. Les médias locaux présents sur la commune ont boudé cet événement en faveur d'un événement sportif. C'était Daniel. Voilà, à bientôt.
C'est son préféré au patron.
Our girls, you know, who are working in the factories. Although they are mostly illiterate, but they are very sharp. Their hands are very soft. And to handle the garments, Bangladeshi girls, you know, rather than Africans, they have big fingers.
Dans nos usines, nos femmes, même si elles sont illettrées, elles sont très très pointues et elles ont des mains très douces. Et les femmes bangladeshi, elles s'en sortent très très bien pour la confection, alors qu'en Afrique, ils ont les femmes ont les doigts beaucoup plus épais.
So, sorry to say if you have a big finger.
Désolé de le dire, mais si vous avez des gros doigts,
handle a sharp stitching like this.
Pour pouvoir faire une couture très fine comme ça sur une chemise.
C'est vrai, j'ai acheté une veste, elle se découpe partout. Si ça se trouve, elle a été faite en Afrique par une femme avec des gros doigts.
Maybe.
Peut-être.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise. Une heure pour les femmes noires avec des gros doigts.
Là, elle est en train de faire des doublures de poches, alors que celle qui est derrière fait les coutures d'un pantalon rouge. Tout ça, ça va être pour cet été, pour la collection printemps-été. Mademoiselle derrière qui est en train de mettre les scratchs d'un pantalon.
C'est
les différents sons que ça fait. C'est son préféré au patron.
Non, c'est un son qu'il aime bien parce que c'est un assemblage final.
All are poor lady, very much poor. They have no other source of income.
Voilà, toutes ces femmes sont pauvres et c'est leur seule source de revenus.
Yes, this one send after 10 to 15 days.
10 à 15 jours, faut que ça soit envoyé.
This one, first of all, we make these garments, then need to send it to wash, then make it iron and finishing, then make it cartoning, then send to.
Ah oui, parce que là d'abord on confectionne, et puis après il faut les laver, et puis après il faut les repasser et les conditionner avant de les envoyer. Donc toutes ces commandes là, c'est tous ces petits pantalons roses d'été légers avec des poches et des coutures avec des surpiqûres blanches, tout ça va partir dans 10 à 15 jours.
Quelques milliers d'ateliers comme celui-là, au Bangladesh ou ailleurs dans le monde. On pourrait être au Guatemala, en Chine, à l'île Maurice, à Madagascar, dans un de ces endroits, dans un de ces pays où l'on fabrique, entre autres, là en l'occurrence, des vêtements, de la confection, des textiles, comme on dit encore plus vaguement. Au Bangladesh, environ 2 millions. De personnes, essentiellement des femmes, à 90% des femmes travaillent dans ce secteur de la confection. On a voulu savoir, eh bien, alors là vraiment, qui coud nos chemises, qui coud ces vêtements que nous portons ici. On ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait plus d'où ça vient depuis qu'il n'y a pratiquement plus d'activité de ce genre dans notre pays. La délocalisation, on s'en souvient, a renvoyé pas mal de monde au chômage, au tapis chez nous, et puis ben, c'est parti ailleurs, on ne sait où, dans des pays à bas salaire, avec toujours cette, euh, ce sentiment confus de culpabilité, de honte en se disant peut-être qu'on est trop égoïste, peut-être qu'on veut tout pour nous, enfin une sorte de préférence nationale par rapport à ces pays pauvres qui, ben, grâce à ces activités, se développent ou se développeraient. C'est ce qu'on suppose et c'est ce qu'on nous dit parfois. C'est plutôt faux parce que ces produits qui sont destinés aux marchés occidentaux, ça peut être d'autres produits, hein. Ça pourrait être au Bangladesh par exemple l'activité dans la crevette, il y a toute une activité dans la crevette, les délicieuses crevettes que nous dégustons, eh ben, pas mal viennent du Bangladesh, mais là c'est l'industrie du prêt-à-porter qui devait en principe sortir un pays comme celui-là, le Bangladesh, de la misère, mais en guise de développement, eh bien, les Bangladais récoltent surtout de la paupérisation et de la violation des droits humains. On l'a vu avec l'activité du shipbreaking, c'est la destruction et le recyclage des navires. Et on nous a dit, oui, mais dans le textile, c'est différent. Dans le textile, c'est différent parce que il y a la pression quand même des consommateurs, des pays riches qui n'acceptent pas que les produits qu'ils consomment en matière de prêt-à-porter soient fabriqués dans n'importe quelles conditions. Il y a des choses éthiques, éthiques sur l'étiquette, etc. Alors, on va aller voir, effectivement, dans quelles conditions tout ça se produit. Et on va rencontrer l'un des représentants, des patrons de ces entrepreneurs de prêt-à-porter. Et puis, on ira visiter un de ces ateliers où travaillent ces jeunes femmes. Et puis, on aura des surprises dans la base où j'y suis, sur France Inter.
Alors voilà, on entre dans l'atelier de confection. Effectivement, c'est que des femmes qui sont au travail. Il fait assez chaud. Et c'est des ateliers de machines à coudre. Bon, c'est une usine, mais c'est pas lamentable. Comme ça, quand on arrive comme ça, c'est pas lamentable.
99% is the female.
Ouais, 99% sont des femmes. Là, je vois un homme là-bas qui est installé.
Toutes les femmes qu'on ne voit pas dans les rues, elles sont ici. Hein, on voit leur visage, on voit qu'elles sont jeunes.
Tout ça, c'est pour l'exportation à l'Europe, dit le patron. Et voilà ce qu'elles nous pressent. Elles sont en train de faire des espèces de petits pantalons.
Des pantalons blancs.
Pour la saison été 2006.
C'est pour quel client ?
Lowland Fashion.
Lowland Fashion. C'est pour les Pays-Bas.
Lowland Fashion, on va avancer un petit peu. Elles ne lèvent pas le nez, hein, les petites dames. Est-ce qu'il ne faut pas garder les hommes ? Est-ce qu'il ne faut pas garder les blancs ?
Ou est-ce qu'il faut produire ?
Un visiteur, est-ce qu'il faut produire ? Ah oui, il n'y a pas un regard sur nous. Si, de temps en temps, mais c'est à la dérobée quand même. Hein. Elles sont très très jeunes. Alors évidemment, c'est toujours ce qu'on nous fait visiter. On nous fait toujours visiter les endroits où ça marche, quoi. Avec le gars debout, avec son maître autour du cou qui vérifie, qui contrôle.
Voilà, une visite à Chittagong dans l'atelier de confection. Les ouvrières qui sont là font partie des 2 millions d'ouvrières du textile, de la confection au Bangladesh. Leur salaire, dans le meilleur des cas, est autour de 30 euros par mois. Un vêtement qu'elles fabriquent va partir du Bangladesh à un peu moins de 5 euros, 4-5 euros, quel que soit le vêtement, c'est une moyenne, une chemise, un pantalon, une veste, autour de 5 euros, et arrivera chez votre marchand de vêtements du coin, que ce soit une grande surface ou plus luxueux, entre 60 et 200 ou 300 euros, si vous allez dans les beaux quartiers, vous pouvez très bien tomber sur ce genre de tarifs. Les ouvrières, donc autour de 30 euros par mois. Il faut rappeler une chose importante, c'est les patrons de ces grandes fabriques qui regroupent plusieurs ateliers, généralement dans les zones industrielles des grandes villes du Bangladesh, très souvent sont aussi parlementaires, ou en tous les cas très proches et très liés avec le pouvoir politique. Ils arrivent quand même à imposer l'interdiction de syndicats dans ce qui concerne le secteur textile. Ça, c'est interdit de se syndiquer. Dans les autres secteurs, oui, on peut voir. Mais dans celui-là, non. Évidemment, c'est le secteur le plus important. C'est 90% des exportations du Bangladesh où les patrons, à travers le pouvoir politique, arrivent à interdire le syndicalisme. On est avec Monsieur Abou Tayyab, c'était en 2006, ce que vous entendez là, qui est vice-président de l'association des manufacturiers et exportateurs de vêtements du Bangladesh.
We are working for companies like Gap.
Nous, on travaille pour des compagnies comme Gap,
Old Navy, like Marks & Spencer.
Ou alors comme Marks & Spencer, on travaille pour
CNA,
CA,
and in France like Carrefour.
En France, par exemple, on travaille pour Carrefour.
Carrefour, c'est une grande, grande entreprise.
Oui, beaucoup de travailleuses travaillent pour Carrefour.
All they are happy with our workmanship, you know. They are happy with our
workmanship. Ils sont tous contents de notre travail.
Carrefour, ils sont contents alors.
Yeah, they are also very happy, you know.
Oui, ils sont très contents.
Alors, il y a eu cette histoire de l'usine Spectrum.
Actually, you know, gentlemen, I'm telling you one thing. This is a simple accident.
Ça, faut que je vous dise, c'était vraiment un cas particulier. C'était un accident.
You cannot judge, you know, incident with the whole nation.
On peut pas juger tout un pays à l'aune d'un seul incident.
Enfin, ça a quand même été terrible.
It was definitely terrible, you know. You know, accident may happen in Paris also because.
Mais vous savez, c'était des grands accidents, c'était des grands bâtiments qui s'effondraient. Vous savez, des accidents comme ça, ça peut même arriver à Paris.
C'est un immeuble de 9 étages qui s'est effondré le 11 avril 2005. C'est près de Dakar, Sabah. Et c'est l'entreprise Spectrum Sweater. Il y a eu 64 morts, 74 blessés, les ouvrières, c'était la nuit. Les ouvrières qui ont été prises entre les plaques, entre les étages qui se sont effondrées comme ça. Et vous considérez que c'est un accident?
Definitely, it was an accident, you know. And there was some, you know, wrong construction problem with, you know. This is nothing with the, you know, quality of commerce in Bangladesh.
Ça n'a rien à voir avec la qualité de la confection au Bangladesh. C'était vraiment un accident qui tient plus à des faits de critères de construction qui n'ont pas été respectés.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi justement cette course au prix toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, auquel vous êtes astreint à cause de votre position? Effectivement, vous êtes un pays pauvre et vous devez produire plus bas. Est-ce que ce n'est pas cette pression que vous avez sur votre industrie qui amène ce genre d'accident?
Oh, not exactly, because
non,
you know.
Non, pas vraiment, je pense pas.
I'm telling you again, this spectrum is not our national scenario.
Mais je this vous dis encore, c'est pas représentatif de ce qui s'est passé à l'échelon national, cette usine Spectrum.
Sauf que, 2 heures à peine après cet entretien, mais à peine. On a été appelé par téléphone par un ami journaliste de Chittagong qui nous a dit il y a une usine en feu. 2 heures après cet entretien, une usine en feu dans un quartier de Chittagong, dans le quartier de Kalurghat, l'usine KTS, c'est-à-dire une usine de confection. Alors, ce n'était pas du tout l'usine qu'on nous a fait visiter tout à l'heure. C'était plongé dans la nuit. Les flammes sortaient de cette fabrique. Foule, pompiers, rares pompiers, angoisse. Et on a essayé de savoir ce qui se passait. C'est assez extraordinaire ce qu'on voit, parce qu'il y a un pompier avec un jet d'eau. Et ici, à 3 mètres de nous, il y a des cuves énormes. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Qui sont en train de fumer, il y a des étincelles qui sortent des cuves. Et pour tout sauvetage, il y a ce jet d'eau qui tape en haut dans une...
Au deuxième étage.
On sent la chaleur, on est à 5 mètres de l'incendie. On voit des étincelles qui sortent de ces cuves qui peuvent très bien là-bas, péter ouais. D'un moment à l'autre. Là-bas, on voit des étincelles qui sortent et le feu continue à l'intérieur du bâtiment. Et pour l'instant, les pompiers n'ont pas réussi à entrer dedans. Mais on ne sait pas où sont les pompiers parce que pour l'instant, il y a un pompier... à l'œuvre dans tout ça et un jet d'eau.
On éclaire à la lampe poche, on voit encore des flammes qui sortent.
Police commissaire.
Le commissaire de police est là aussi, ouais, toutes les autorités sont là.
C'est le chief law enforcement agency in the city.
C'est le chef de la police de la ville.
Bonjour, c'est pour la radio française. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé?
Yeah, the factory was set on fire at about 7:32.
L'incendie a commencé dans cet atelier de confection vers 7h30, 8h moins le quart aujourd'hui. La police a été prévenue, qui a immédiatement prévenu les pompiers.
And they are still on continuation, you know. There were electricity, gas system, there were boilers and.
Et là, il y avait des chaudières, de l'électricité, des systèmes de gaz. Donc, il y avait plein de choses qui pouvaient provoquer l'incendie.
Chemical items are there.
Il y avait même des produits chimiques à l'intérieur.
Selon vous, I can't say.
Pour l'instant, on peut pas dire quelle est la cause.
Only gas. It could take place from the boiler.
Voilà, mais ce qu'on fait, c'est peut-être la chaudière qui a fait ça.
Voilà. Combien de victimes pour l'instant officiellement?
About 60 burn injuries, out of which 6 died.
Plus de 60 personnes qui ont été brûlées, blessées par le feu. Il y en a parmi ces 60 personnes, 6 sont mortes.
Combien de personnes étaient au travail quand l'incendie s'est déclaré?
I can't say for sure, but as I heard, 1,200.
À peu près 1,200 personnes. C'est pas sûr, mais 1,200 personnes étaient là en train de travailler. Et là, pendant ce temps-là, on voit un gars qui est en train de se faire éclairer, qui est en train de monter une échelle bricolée avec des bambous et qui est soutenu par des autres.
Alors, l'immeuble a été vidé. Il n'y a plus personne dans l'immeuble.
Well, we are not sure. We are afraid that some people are still inside.
Non, c'est pas sûr. On a peur qu'il y ait encore des gens qui soient à l'intérieur.
Et qui n'ont pas pu fuir.
Yeah. People cannot enter the inside.
Que les personnes n'ont réussi à rentrer à l'intérieur encore.
Pour l'instant,
on n'est pas sûr, mais on redoute qu'il y ait des gens encore qui soient morts à l'intérieur.
Parce que pour l'instant, les pompiers n'ont pas réussi à entrer à l'intérieur.
Ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur, mais pas à rentrer partout.
Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartiennent les entreprises qui sont là?
KTS.
KTS.
Mr. Ohidul.
Monsieur Ohidul, qui est le propriétaire de cette boîte.
Voilà dans quelles conditions sont cousues les chemises que nous portons, les vêtements que nous portons dans ce genre d'usine. Et quant au patron, M. Waïdoul Alam, qui est un patron important, qui possède 5 usines, on pense qu'il a autour de 10 000 ouvriers, ouvrières plutôt, qui travaillent pour lui, et bien sitôt que l'incendie s'est déclenché, il a fui. Il a fui avec sa famille, il s'est enfui, il s'est évaporé dans le paysage, il était introuvable. Par la suite, le lendemain ou le surlendemain, il a été arrêté. Je ne sais pas du tout où en est l'affaire pour l'instant. Là, on en était, selon la police, à 6 morts, selon d'autres sources, 8 morts, mais on était en plein incendie. Des femmes, des ouvrières étaient prises à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur des flammes. Certaines se jetaient par les fenêtres parce que les portes de sortie avaient été fermées. Et selon des rumeurs, mais qui se sont confirmées par la suite, les portes avaient été fermées parce que les ouvrières, au terme de leur temps de travail, c'est-à-dire au terme de leurs 10 heures de travail, elles voulaient partir. Mais comme il y avait une commande urgente,
les contremaîtres avaient fait fermer les portes de façon à ce que les ouvrières restent dans l'usine pour continuer de travailler. Les informations ont été recoupées et il semble que cette version soit la bonne. On n'en est pas encore là pour l'instant, on est au milieu des flammes avec ces rares pompiers et ces flammes et cette nuit et cette angoisse.
C'est vrai qu'on sent les bouffées de chaleur là. Voilà, c'est là où le feu a commencé, c'est d'ici que le feu est parti. Et on voit encore des grandes flammes là qui sortent, regarde. Ah ouais.
Mais ce qui est assez formidable, c'est que cet après-midi même, on a visité un atelier, ici dans Chittagong, un atelier de couture, gentil comme tout, joli comme tout. On nous a dit, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de truc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas raconter ça sur le Bangladesh. Et là, on voit un atelier où il y avait 1200 ouvrières qui étaient en train de travailler. Pour l'instant, il y a 8 morts, 60 blessés graves. Il y a peut-être des gens qui sont encore à l'intérieur. Il y a peut-être des morts à l'intérieur qu'on trouvera, on ne sait pas quand.
Et là, on voit les flammes qui sortent d'un côté et on voit les nappes de fumée là, qui s'élèvent du plafond et qui sous l'éclairage.
It may crack down.
Et maintenant, le risque, la crainte des uns et des autres, c'est que l'immeuble s'effondre. Parce que tu vois, voilà, parce que tu vois, on voit toutes les armatures déjà en béton armé de l'immeuble.
Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que l'immeuble est en voie d'agrandissement. Et toute la partie qui est en train de flamber est une partie en construction et les échafaudages sont en bambou. On entend des coups à l'intérieur.
It's under construction.
Oui, c'est encore en cours de construction. Ils étaient en train d'agrandir le bâtiment.
Because of their demand.
Parce qu'il y avait une demande forte.
Because they get more order from abroad, they extended their factories.
Et comme les commandes de l'étranger arrivaient de plus en plus, bah, ils ont agrandi leur usine pendant les travaux. Regarde là par les fenêtres, on voit des braises qui rougeoient là.
I'm very much sorry that it may crack down because last 5 years it is firing.
Mamoun est très inquiet que ça s'effondre parce que ça fait 5 heures que c'est en train de brûler sans que ça s'arrête et donc il y a vraiment un risque d'effondrement de ce bâtiment.
The factory is full of cotton, voilà. Raw materials,
il y a plein de matériaux premiers, de coton, de vêtements qui ont été
so
à moitié finis. Donc le feu est entretenu en permanence.
Regarde là, c'est en train de reprendre là, c'est en train de reprendre au-dessus de nous. Tu vois, c'est un boulot fou, hein. Les gars sont en train de monter une grande échelle à la main. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grue, il n'y a pas de véhicule. Les pompiers tiennent les lances, qui sont très faibles de portée, à la main. Et là, ils sont en train d'essayer de dresser une échelle, mais il n'y a pas de véhicule pour dresser l'échelle. Il y a un projecteur, un malheureux projecteur, pour savoir où ils en sont, quelques mecs. Et là, de toute leur force, ils ont commencé à dresser l'échelle contre le mur. Mais il n'y a pas de véhicule, quoi. C'est insensé, la pauvreté en moyen, quoi. C'est terrible, hein, de penser qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur qui sont en train de brûler là-dedans. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est cette pression imbécile de la consommation qui veut. Des prix, de la camelote, toujours de la camelote, toujours des prix plus bas. Et puis un pays hyper pauvre qui est bien obligé de s'écraser... et de répondre à ses commandes à prix cassé, quoi. C'est pas n'importe quel incendie, ce qu'on voit. Évidemment, ça se passe comme n'importe quel incendie, sauf que ça, c'est un incendie de pauvre. C'est un incendie de pauvre et c'est l'incendie de l'exploitation. Il est 20h, ça fait 5h30.
La police qui passe, avec leurs gilets pare-balles et leurs fusils. Les quadrilles, ouais.
I think we should leave because other secret agency may follow us.
Il pense qu'il faudrait mieux partir parce que maintenant il y a des services secrets qui sont présents et qui risquent de nous suivre. On sent des bouffées de chaleur là qui alors qu'on passe pas trop loin de l'immeuble.
Là ça continue par ici.
Et le feu continue. Voilà, les ambulances qui sont là, à moitié vides, mais t'as vu, ça aussi, c'est encore des ambulances du tiers-monde, quoi. C'est une pauvre camionnette avec un vide-camp à l'intérieur.
Voilà, cet incendie terrible. Le lendemain, eh bien, nous nous rendons à l'hôpital de Chittagong, au Medical College Hôpital de Chittagong,
pour essayer de rencontrer les familles des victimes, voir où en sont les victimes. Il y a foule, évidemment, une foule hagarde de gens hébétés d'angoisse, de souffrance, parce qu'on ne sait pas qui. Des gens ont disparu, ma sœur a disparu, mon frère a disparu. C'est beaucoup, beaucoup des femmes, des jeunes femmes qui ont disparu. Et la foule est dans l'hôpital, cherchant dans tous les sens d'avoir des nouvelles des siens, des leurs.
Là, il y a tout un groupement de femmes. On voit que c'est des femmes modestes avec leurs saris qui sont posées dans un coin, qui attendent apparemment depuis un moment. Là, on sent la tension dans l'air. Il y a des gens qui sont là, l'air un peu hagard dans les coins. On essaie d'avoir des nouvelles. Et voilà, par là-bas, il y en a d'autres.
Vous avez des parents qui ont été blessés ?
J'ai ma tante et mon oncle qui sont blessés.
Vous aussi ? Vous avez des gens de votre famille ?
C'est ma fille qui est blessée.
Vous l'avez vue ?
Non, je ne l'ai pas encore vue.
Voilà une dame qui nous regarde droit dans les yeux et qui tient la photo d'une gamine, d'une petite fille. C'est qui, madame ? Vous nous montrez une photo ?
C'est ma fille.
Vous la cherchez ?
Oui, je la cherche.
Elle s'appelle comment ?
Mouni. Elle s'appelle Mouni. Elle a 18 ans.
Elle était dans l'immeuble hier soir ?
Oui, elle travaillait dans cette usine textile où on a eu l'incendie hier.
Et vous êtes sans nouvelles, là ?
Non. Je ne l'ai pas encore trouvée parce qu'on ne m'autorise pas à entrer.
Vous attendez des nouvelles de votre fille ?
Oui, j'attends ma fille qui travaillait dans cette usine.
Elle a quel âge ?
Elle a 15 ans.
15 ans ?
Ça fait un an qu'elle travaille dans cette usine.
Et vous êtes sans nouvelles d'elle ?
Je ne l'ai pas encore retrouvée. En plus, on ne nous autorise pas à entrer. Pourquoi il nous fait travailler nos filles jusqu'à si tard du soir, quand il doit normalement terminer à 16h30.
En principe, le travail devait s'arrêter à
16h30. Alors dans cette usine, il n'y a pas d'horaire particulier pour arrêter le travail. Quelquefois, elle s'arrête à 16h30, quelquefois à 18h30, quelquefois elle travaille jusqu'à 10h du soir.
Mais elle travaillait à faire quoi là en ce moment, ces jours-ci ? Hier, elle travaillait sur quoi ?
Elle fabrique les pantalons et les chemises.
Mais pour qui elle travaille ? Pour qui sont ces pantalons ?
Ce qu'on entend, c'est pour les étrangers. On les exporte à l'étranger.
Mais vous savez où est son patron ?
J'ai vu le patron hier quand il criait que c'est fini, mon usine, c'est fini, mon usine. Et le gardien a enfermé, il a fermé la porte à clé.
Parce
que le gardien s'est échappé, le gardien a disparu après avoir enfermé la porte à clé. C'est pour ça que ma fille et les autres ouvriers n'ont pas pu sortir. Et ils ont essayé de sauter par la fenêtre pour se sauver. Je n'ai pas de fils, c'est ma fille qui fait survivre ma famille.
Pour combien d'heures travaille par jour ?
Du matin au soir, normalement, elle commence très tôt, vers 7h30, 8h, et elle termine à 9h30, 10h du soir. On pense qu'ils n'ont pas un bon traitement ici aussi, parce que nous sommes pauvres.
Voilà, la visite officielle est en train d'avoir lieu. C'est un ministre local qui est en train de s'arrêter devant les femmes qui sont allongées sur leur lit. Il s'incline et leur demande de leurs nouvelles et il y en a... Oh là 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 là.
Alors là, notre interprète ne nous a pas suivis parce qu'il y a une salle
de 40, 50 lits avec des gens, des femmes dans un état absolument terrible. Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Je sais pas, de brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure. Elle est absolument défigurée, c'est atroce. Là, il y a celle-ci qui a l'air plutôt morte que vive, qui a 18 ans, qui, si elle n'est pas morte, n'en a plus pour longtemps. Là, c'est plutôt des morts qu'on est en train de voir que des brûlés. C'est assez terrifiant. Hein. Elle a 15 ans, elle est brûlée à 16%, cette jeune fille. Celle-ci, elle est brûlée à 10%. On ne voit pas très bien, mais les visages absolument défigurés, défigurés à jamais. Celle-ci qui est complètement, qui a l'air plutôt plus morte que vive, même si elle semble respirer encore un peu, elle est brûlée à 25%. Elle s'appelle Margina, elle a 19 ans. Celle-ci a 18 ans, elle est brûlée à 15%. Celle-ci, Lovely, elle est brûlée à 30%. On est en train de lui faire des soins, mais ça a l'air bien désespéré. Celle-ci, elle est brûlée à 10%, elle a 18 ans. Celle-ci, c'est terrifiant. Celle-ci est en train de finir sa vie. Très probablement, c'est absolument terrifiant. Elle a le visage complètement boursouflé, gonflé. Et elle est brûlée à 30%, elle a 20 ans.
Vous avez vu les soins, quoi. Ils ont juste une perfusion de sérum fille et un peu de biafine sur les plaies, c'est tout, quoi.
Celle-ci a 17 ans, elle est brûlée à 21%. 10 pas. Cette jeune fille-là, son nom n'est pas encore indiqué. Elle bouge encore.
T'as vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%? 12 ans.
12 ans. Je crois que c'est la pire de toutes, celle-là. Hein,
elle a les mains complètement bandées.
Ouais.
Et la respiration octante.
Ah, elle y travaillait? Elle est, il faut lui faire de la place parce qu'elle est petite, cette femme. Vous vous appelez comment?
Reshma.
Je m'appelle Reshma.
Reshma. Quel âge vous avez, Reshma?
J'ai 13 ans.
Vous avez 13 ans. Et vous travaillez dans l'entreprise?
Oui.
Je
J'assiste à couper les fils.
Vous étiez là pendant l'incendie, au moment de l'incendie?
Oui, j'y étais.
Il
y avait une panne d'électricité et donc on avait mis le générateur. Mais quand l'électricité est revenue, on n'a pas éteint le générateur. Et donc c'est par là que l'incendie s'était produit.
Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu une explosion?
Oui, j'ai entendu le feu, et j'ai entendu au secours, et après j'ai vu beaucoup de personnes brûlées, et nous sommes tous sortis parce que nous avons eu peur.
Comment tu as fui, toi?
J'ai essayé de sortir. Comme je suis très petite, j'étais presque écrasée sous les pieds des autres. Mais quand même, on a tous couru vers la porte qui était fermée à clé. Donc, je n'ai pas pu sortir. Finalement, quelqu'un de l'extérieur de la porte m'a enlevée au-dessous de la porte.
Et après?
তারপর আমি দৌড় দিয়ে আমি কান্না করি আমাদের বোনের জন্য আমাদের বোনের জন্য কান্না করি তারপর আমি বাসায় চলে যাই আমি খবর দেই তারপর আমি বাসা থেকে আর আসতে পারি না
comme si a pleuré pour ma sœur qui était au dedans et après je suis retournée chez moi pour informer ma famille ce qui s'était passé.
Ta sœur était dedans?
আমার বোন ছিল ভিতরে বাড়াতে পারে নাই কোন আমার বোন নিচে আসতে লাগছে নিচে থেকে আগুন ধরছে তো আর আর বাড়াতে পারে নাই.
Elle n'a pas pu sortir, elle est restée parce qu'elle a essayé de descendre pour sortir. Mais comme le feu a été en bas, près d'escalier, il n'a pas pu sortir.
Donc, mais tu sais où elle est? Tu as des nouvelles d'elle?
Tout le monde m'a dit qu'elle est ici. Elle a été emmenée ici, c'est pour ça que je suis venue, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vue.
Et tu as quel âge?
J'ai
13 ans.
Et ta sœur, elle a quel âge?
11 ans. Elle a 11 ans, ma soeur.
Ta soeur, elle a 11 ans. Elle travaille et elle a 11 ans.
Oui.
Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Pourcentage de brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure. Elle est absolument défigurée, c'est atroce.
C'est vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%.
12 ans.
12 ans.
Sur nos fringues, ce genre de choses qu'on vient d'entendre, ce genre d'incendie, c'était chez TKS en 2006. Mais ce qui s'est passé samedi dernier, 24 novembre, chez Tasmin Fashion, c'est exactement la même chose. Chez Tasmin Fashion, samedi, il y a eu 112 morts, 112 mortes, et on a retrouvé le carnet de commandes de l'entreprise avec le nom des commanditaires. Pour qui travaillent ces femmes? Pour qui travaillent ces ateliers? Eh bien, ils travaillent entre autres pour Walmart, ils travaillent pour Carrefour, pour Ikea, pour Pimki, pour Go Sport International, pour le groupe Casino, nos amis de chez Casino, pour Auchan, pour Cora, France et pour bien d'autres marques à travers le monde. Ce sont les commanditaires, ce sont ces entreprises qui passent ces commandes à ces entreprises du Bangladesh et qui donc profitent de cette exploitation forcenée de ces femmes. Elles se défendent. Il y a un certain nombre d'ONG à travers le monde qui essayent de les soutenir, qui essayent d'informer sur ce qui se passe dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays, dans le textile ou dans d'autres domaines. Mais sur place, les gens ne se laissent pas faire. Même s'il y a interdiction de syndicats, les femmes, surtout elles-mêmes, ces ouvrières, parviennent à se syndiquer, parviennent à manifester, et parfois de façon extrêmement violente. Les répressions sont souvent très violentes, avec des morts dans les manifs. Et j'en profite pour rendre hommage à un journaliste que nous avions rencontré à l'époque, Orshad Alam, qui était un journaliste très engagé et qui est mort ces jours derniers de maladie, lui. Mais c'était un homme très engagé. Il fait partie de tous ceux qui, sur place, essayent de se battre courageusement, de façon organisée, radicale, et de ne pas rester seulement dans l'émotion, dans l'indignation ou dans l'apitoiement. Rencontre avec une femme à cette époque, en 2006, donc, qui est une des leaders de ces mouvements et qui s'appelle Nazma Akhter.
My name is Nazma Akhter. I am the General Secretary of AWAS Foundation.
Je suis Nazma Akhter, secrétaire général de AWAS Foundation.
Alors là, on vous voit manifester. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
You know, in Bangladesh, more than 4,000 factories in our country.
Vous savez, il y a plus de 4,000 usines de confection dans notre pays.
And 85% are women.
Et 85% des travailleuses sont des femmes.
But every year, every moment, we don't have any safety in the garments industry.
Mais il n'y a jamais, jamais, à aucun moment, il y a des garanties de sécurité dans cette industrie.
Because there sometimes they are fire, they had an accident, in fire accident, sometimes the factory collapse. So these things are continuing to happen.
Il y a des feux, des incidents, là comme aujourd'hui, une usine qui s'effondre, ça arrive sans cesse.
Every moment, everywhere, the garments workers, they couldn't get any protection, they doesn't have any self-security, even their wages is very low, they are working.
Les salaires sont très bas, les conditions de travail sont très mauvaises aussi, et à tout moment, il y a des accidents qui arrivent dans l'industrie de la confection.
Although it's a global market and economic and the MFA phase out, but you know, in Bangladesh, we were thinking and we thought the factory will be shut down, but our factory is not shut down, but we have lots of order, but the price is very low from the brands, that is why.
Ouais, et donc même si ces conditions de travail sont terribles, il n'y a aucune garantie de l'emploi, et pourtant même s'il y a eu la fin de l'accord multifibre avec les quotas pour l'exportation depuis le Bangladesh, les commandes n'ont pas cessé, mais simplement c'est les salaires qui ont baissé.
Parlez-nous de la responsabilité des acheteurs étrangers, des acheteurs occidentaux dans cette affaire.
All of the European or American who are working, in general, their factory scenario or picture, you can find all that equal, like wages, like working hour, like their behavior, all are same. I cannot claim.
Je ne peux pas en blâmer une plus qu'une autre, je ne peux pas en distinguer une des autres. Toutes les multinationales qui sont présentes ici, ils travaillent sur le même modèle pour les heures de travail, pour les salaires, etc.
Because we know in France you have the factory brand in Bangladesh, we know in Germany many ways.
On sait que vous en France vous avez des marques qui produisent au Bangladesh mais aussi en Allemagne et partout.
But all are equal. This is our opinion.
Et nous on pense qu'elles font toutes pareilles, qu'elles sont toutes pareilles.
Alors ça c'est une responsabilité. Quelles sont les autres responsabilités?
Also our government is negligible for this.
Bien sûr aussi c'est notre gouvernement qui est très négligent dans cette affaire.
Because you know, even we have problem with the compensation law because law was the law was passed like since 1923 almost 100 years.
Par exemple les lois pour les indemnités, cette loi là a été votée en 1923, elle a presque 100 ans, elle a jamais été remise à jour.
Very small amount of money the family will get but it's not sufficient.
Les familles ne se voient verser que des toutes petites sommes d'argent, ce qui sont absolument insuffisantes.
In country, even garments owner, government, they are earning lots of money from those workers, even multinational companies.
Alors que les multinationales, notre gouvernement et les patrons ici gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces ouvrières.
You know, in Bangladesh, when the garments worker are killed or die or a difficult accident, that we getting 100,000 taka for the compensation.
Vous savez, au Bangladesh, quand un ouvrier meurt sur son lieu de travail dans une industrie de la confection, on ne touche que 100 000 taka d'indemnité. C'est-à-dire 1300 euros.
That is not a human price.
Ce n'est pas un prix pour une vie humaine.
Voilà. C'est que vous, un être humain, une femme comme vous, ici, c'est 1300 euros.
Trade should be not only profitable, it should be also looking for the human. Otherwise, this situation will be happen everywhere.
Le marché, c'est pas simplement faire du profit, c'est aussi penser à l'aspect humain des choses. Sinon, cette situation va se reproduire partout ailleurs.
Because you know, like myself, I was working in the factory when I was 11 years old.
Parce que moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans une usine de confection à l'âge de 11 ans.
But only I faced the problem in the garment sector. I suffered many problems, even
sharpness.
We lost our job.
That is why we are. Et c'est pour ça maintenant.
Working last 15 years for the workers.
Et c'est pour ça que ça fait depuis 15 ans qu'on travaille pour les ouvriers, pour les travailleurs.
Even in Bangladesh, we have problem with the many men leadership. There is very small percentage of women because they are deprived. Also, women should not raise. That
et mais ici au Bangladesh aussi, on a beaucoup de problèmes parce que c'est une société qui est tenue par les hommes et il y a très peu de place qui est laissée nous pour les femmes pour pouvoir nous battre et nous tenir.
Merci à toutes et à tous sur l'incendie qui a fait 112 victimes samedi dernier. J'apprends que la Fédération de l'industrie textile du Bangladesh versera à chaque famille de victimes, pour chaque victime, la somme de 963 euros. Voilà le prix d'une vie d'une ouvrière au Bangladesh aujourd'hui, où l'on fabrique donc nos vêtements, je le répète, distribués par Walmart ou commandés par Walmart, Carrefour, Ikea, Pinky, GoSport, Intersport, Casino, Auchan, Cora France, etc., etc. C'était « Comment meurent les bateaux et qui coulent ma chemise ?» Retour donc au Bangladesh, en souvenir, en hommage à Khorshed Alam, journaliste rencontré à cette époque, journaliste engagé rencontré à cette époque à Dhaka. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, vous pourrez voir un diaporama que nous avions fait à l'époque. Vous pourrez le voir à nouveau. À la technique aujourd'hui, Fabien Laléos et Ronan Mahé, c'est Lucie Acoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission, préparée avec Pierre-Yves Bulto et Marion Dupas. Attends vos messages sur le répondeur de la base où je suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
La Banque Postale a quelque chose à vous dire concernant le crédit à la consommation.
Aujourd'hui, vous remboursez peut-être plusieurs crédits. Un pour la voiture, un autre pour des travaux, un troisième pour une cuisine par exemple. Et souvent, ces crédits ont des durées, des mensualités et des taux différents. Mais finalement, savez-vous combien vous coûtent tous vos crédits ? Avec le rachat de crédit de la Banque Postale, vous regroupez vos crédits en un seul, avec un seul taux attractif et une seule mensualité plus adaptée à votre situation financière. Alors demandez vite une simulation à votre conseiller. Et jusqu'au 29 décembre, la Banque Postale vous fait profiter d'une offre spéciale. Renseignez-vous dans votre bureau de poste ou appelez le 36 39, 15 centimes d'euros TTC la minute.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusive du prêteur.
Futuroscope.
Dis, tu m'emmènes à ta robot party au Futuroscope ?
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge ?
Oh, s'il te plaît !
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot partie par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Venez vite, jusqu'au 6 janvier, le séjour est gratuit pour les enfants de 5 à 16 ans inclus.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Ouverture de l'attraction dès le 22 décembre.
France Inter présente Laurence Anyways de Xavier Dolan en DVD et Blu-ray. Les amours tumultueuses d'un couple confronté aux conventions et aux préjugés.
Tu me mens depuis 2 ans.
Non, j'ai pas menti. J'ai juste rien dit.
Une histoire d'amour impossible avec Melville Poupeau, Suzanne Clément, Nathalie Baye. Laurence Anyways, un DVD et Blu-ray France Inter.
France Inter présente les dernières dates de la tournée triomphale de Jacques Weber dans Éclat de vie. Au Trianon, les 14 et 15 décembre, pour 3 représentations exceptionnelles, dont une matinée le 15.
Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Pour l'occasion, le trompettiste Éric Truffat accompagnera Jacques Weber. Retrouvez Éclat de vie dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes, on se retrouve demain à 15h pour la base. J'y suis, je vous laisse pour les infos avec Ariane Grissel. Salut.
Le gouvernement aurait trouvé un repreneur pour l'intégralité du site ArcelorMittal de Florange, un aciériste prêt à investir 400 millions d'euros. Affirmation cet après-midi du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Le nom de ce possible investisseur n'a pas été révélé. À 3 jours du délai pour un éventuel redémarrage des hauts fourneaux, le gouvernement attend désormais les propositions de Lakshmi Mittal, PDG d'ArcelorMittal. Il faut bien évidemment qu'il soit prêt à céder le site de Florange. Arnaud Montebourg doit rencontrer en fin d'après-midi une délégation d'employés du site mosellan. Ils se sont rassemblés, une trentaine d'entre eux s'est rassemblée tout à l'heure près de l'Assemblée nationale. Le site ArcelorMittal de Florange emploie 2800 personnes. Une équipe du Fonds souverain de l'État libyen doit par ailleurs venir en France la semaine prochaine. Elle vient cette fois-ci étudier la possibilité d'investir dans la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne près de Rouen, raffinerie placée en liquidation. À chaque jour, son médiateur dans le conflit pour la présidence de l'UMP après l'échec du projet de référendum, le copéiste Christian Jacob propose aujourd'hui la mise en place d'une commission paritaire composée de membres des deux camps, dès lors que François Fillon aura dissous son groupe parlementaire Rassemblement UMP, né officiellement ce matin même. Plusieurs députés UMP, dont certains se disent non alignés, ainsi que Jean-François Copé, avaient laissé jusqu'à 15 heures à l'ancien Premier ministre pour dissoudre le RUMP. On ne cède pas aux ultimatums chronométrés, a répondu François Fillon. Pour Michel Tabarot, pro-Copé, cette phrase signe la fin des discussions avec François Fillon.
Nous avions proposé à François Fillon de supprimer ce nouveau groupe, ce groupe de dissidents, et de ne pas aller en justice concernant l'UMP, les résultats de l'UMP. François Fillon, ayant refusé cette main tendue une énième fois, eh bien, a décidé que c'était la fin des négociations. Donc ça s'arrête maintenant, et donc nous avançons pour l'avenir de l'UMP. Jean-François Copé l'a rappelé, nous avons un parti à mener, une force d'opposition à mettre en place, et puis surtout de nombreux combats électoraux à mener. Après de nombreux jours d'attente, eh bien, il est normal de se remettre au travail. Nos militants l'attendent, les Français l'attendent, et nous sommes donc prêts à le faire.
Michel Tabarot au micro de Louise Baudet. Pas de transport scolaire dans le sud de l'Isère demain matin, conséquence des fortes chutes de neige. 6500 foyers sont par ailleurs toujours privés d'électricité. ERDF espère un retour à la normale dans la soirée. Le département est placé en alerte orange à la neige et au verglas, tout comme la Drôme, la Loire et la Haute-Loire. Alerte valable jusqu'à demain soir. Les frères musulmans appellent à manifester samedi en soutien au président égyptien Mohamed Morsi. Hier, des milliers d'opposants se sont rassemblés place Tahrir au Caire. Il dénonce un décret élargissant les pouvoirs du chef de l'État.
Dimanche 2 décembre, prix des radios francophones publiques.
Cette année encore, c'est vous qui votez. Vous écoutez l'émission entre 9 et 10 heures. Vous classez par ordre de préférence les 4 reportages présentés par la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. Et vous communiquez votre vote à l'issue de l'émission. Pour faire partie du jury, rendez-vous dès à présent sur notre site franceinter.fr. Et bienvenue au club.
France Inter.
La voix est libre.
France Inter, 16h04, on poursuit en musique. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Ariane Grissel. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Avant de recevoir notre grand invité, chef d'orchestre, je vais parler d'un autre chef d'orchestre, vous avez déjà été alerté ces jours-ci. Donc il a été, lui, kidnappé à Matamoros, au Mexique. Il s'agit de Rodolfo Casares Solis. Et il y a déjà des pétitions qui sont en route. Alors j'ai donné des contacts hier. J'ai donné notamment le contact de son épouse, Ludivine Barbier Casares. Vous trouvez tout sur le site. Vous allez sur Carrefour de l'Odéon. On a fait franceinter.fr. Donc c'est ludibarbier@yahoo.fr et tout le monde s'y met, dont Ricardo Muti, plein de gens ont pétitionné, s'occupent de ce drame, il faut appeler ça comme ça, parce que la toute jeune épouse que j'ai rencontrée hier, évidemment, souffre énormément, vous imaginez, plus de 500 jours déjà d'absence et puis presque pas de contact. Et on nous signale aussi un site, le fameux Facebook, sur facebook.com, vous pouvez écrire sur comité de soutien international de Rodolfo Casares Solis, tout ça est sur notre site. Et plus il y aura de bruit, évidemment, plus de bruit médiatique, plus ça pourra, je pense, maintenant on en est sûr, après 500 jours sans aucune réaction, à peine un coup de téléphone, ben, il n'y a plus de raison de ne plus bouger. Merci donc par avance. Cher Emmanuel Krivine, bonjour, bonjour.
Bonjour.
On est très content de vous retrouver à chaque fois. Donc là, c'est un nouveau disque principalement qui vous amène. Il y a aussi un très beau concert à Paris, je vais le resituer avec Nelson Frère, fameux pianiste brésilien. Ce sera le 8 décembre à Salle Pleyel avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Donc vous travaillez avec cet orchestre-là, vous êtes invité partout dans le monde aussi. Et maintenant, c'est carrément une grande famille, l'Orchestre du Luxembourg et vous-même, parce que vous devez vous connaître très, très intimement, on va dire.
Oui, 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 on se connaît bien. Je les ai rencontrés pour la première fois en 2001. Donc, ça fait...
Bah, ça fait 11 ans.
Ça fait 11 ans que je les connais et je suis chef de cet orchestre depuis 2006.
Oui, oui. Et bon, et vous avez aussi la Chambre Philharmonique. C'est-à-dire, vous travaillez, vous avez été demandé par la Chambre Philharmonique. C'est un orchestre sur instruments anciens, donc c'est une autre façon d'aborder la musique.
Oui.
Et c'est complémentaire, je suppose, pour vous, dans votre esprit.
Ah, c'est tout différent et on essaye d'institutionnaliser les uns et de désinstitutionnaliser les autres.
D'accord, c'est difficile à dire, mais je comprends très bien.
L'interpénétration des influences.
Oui, oui, c'est-à-dire que l'orchestre, très connu depuis très longtemps, l'Orchestre du Luxembourg. On l'entendait autrefois sur une radio concurrente et néanmoins amie, le dimanche soir. Et donc, c'est un orchestre ancien par sa formation. L'autre est beaucoup plus jeune. Il y en a un qui est payé de manière traditionnelle salarié, et puis les autres sont des intermittents du spectacle. C'est ça, hein,
c'est
voilà.
Ça, oui, c'est
donc,
très différent.
Il faut essayer de solidifier l'un, effectivement. On peut essayer de donner du mouvement à ce très bel orchestre du Luxembourg, et ça marche très bien. Donc, un disque Maurice Ravel. Alors, pourquoi ce choix? Voilà, simplement.
Ah, parce que c'est beau, et puis parce qu'on en avait joué beaucoup, et puis on a fait un assortiment assez intéressant, un petit menu dégustation. Puis ça m'a intéressé aussi de... Parce que c'est une... En fait, on donne 3 disques avec Luxembourg. On a 2 ans chez Zigzag, oui. Et la marque Zigzag. Et donc, on fait un disque Ravel, un autre avec Tableau d'une exposition Mussorgsky, couplé avec Scheherazade Rimsky, puis un autre disque Bartok. Oui. Ça, c'est en 2-3 ans. Donc, le premier volet, c'est ce Ravel. Et j'ai essayé de m'approcher de ce que Ravel voulait, parce que maintenant, on peut savoir beaucoup de choses. On est dans une époque où on sait tout, Dieu merci, puis j'ai le contraire aussi d'ailleurs, mais pour la musique c'est très bon de tout savoir. Et par exemple, on voit tout ce que Ravel avait écrit comme différence de tempi dans le boléro, entre le manuscrit, l'édition, l'autre édition, il y a plusieurs tempi marqués. C'est intéressant, quoi. Alors, j'ai essayé de m'approcher de ce qu'ils voulaient entendre. Vous me direz, tous mes collègues diront la même chose, mais c'est très bien, on s'approche tous de ce qu'ils voulaient entendre.
Chacun défend sa position, évidemment.
Voilà.
Quel est le tempo, c'est-à-dire la vitesse d'interprétation réelle? On ne sait pas, parce qu'on sait qu'il a aussi varié selon ce qu'on lui disait. Quand un jour, on a joué son quatuor un peu trop vite, le quatuor s'était trompé, ils ont joué 2 fois plus vite que ce qui était écrit. Il a dit, c'est très bien aussi, que c'est très bien. Donc, allons-y, quoi qu'il en soit, pour l'œuvre la plus fameuse, une dame en l'entendant a crié « Oh fou !» Et Ravel a dit « Enfin quelqu'un qui me comprend, le boléro !»